rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaud Dautuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Camiade.
Bonjour Thibaud et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes l'évêque de Cahors et avec vous pendant ce mois d'avril, nous allons parler de l'un de vos prédécesseurs. Le bienheureux Alain de Solminiac a été à la tête de votre évêché pendant 23 ans en plein XVIIe siècle. Le siècle de Saint-François de Sales. Le siècle de Saint-Vincent de Paul, celui de la contre-réforme catholique. Alors pourquoi évoquer cette figure aujourd'hui? Parce que votre diocèse fête en ce moment les 400 ans de son ordination sacerdotale. Donc nous allons ensemble, au cours de ces quatre séquences, ces quatre semaines, évoquer sa vie et puis nous arrêter sur quelques points qui le caractérisent plus particulièrement, essayer peut-être d'en tirer des enseignements pour aujourd'hui. Alors déjà, racontons un peu sa vie effectivement, prenons le temps de nous arrêter sur quelques épisodes. Sa jeunesse, qui est-il, d'où vient-il, où est-il né? Voilà, racontez-nous un petit peu sa jeunesse.
Eh bien, donc, il est né en Périgord, à 22 km de Périgueux, au château de Belay, dans une famille noble. Ses parents étaient des catholiques, on dirait aujourd'hui attestataires. C'était dans le contexte, comme vous l'avez dit, de la contre-réforme. Alors il y avait des catholiques qui avaient quelques concessions avec le calvinisme, c'était pas le cas de sa famille. Ils étaient catholiques et voilà, convaincus. Et puis lui, c'était un peu parmi ses camarades de jeu. Il avait appris tout ce que faisaient les jeunes nobles de l'époque, la chasse, la danse, et il était assez brillant, il réussissait. Il était, on dit que après à l'âge adulte, il était grand, mince, un peu sec même, mais donc il avait en tout cas une certaine force physique, une certaine voilà, c'était un homme plein d'action depuis sa jeunesse. Voilà, et puis on raconte aussi que il avait quand les conversations, ça arrivait déjà aussi à cette époque-là, déviaient un peu de manière un peu déplacé, lui n'entrait pas dans ces conversations-là. En même temps, il n'était pas donneur de leçons, mais il utilisait la technique de la diversion. Et si la conversation devenait oiseuse, soit il prenait un livre dans la bibliothèque et puis il se plongeait dedans, manifestant par là que ça n'intéressait pas ce qu'il était en train de se dire, et il se laissait absorber de cette manière-là. Soit il disait « Bon, partons à la chasse ». Et de cette façon, on abandonnait tout de suite. Voilà. Ça dit déjà quelque chose de sa personnalité, quelqu'un qui ne se laissait pas entraîner par les autres et qui était plutôt un leader et puis qui aimait bien gagner. Voilà.
Mais on le destinait, d'après ce que j'ai retenu, on le destinait aussi à rentrer à l'ordre de Malte, donc c'est effectivement une personne brillante, qui
en fait,
promis un grand avenir.
Ses parents ont voulu qu'il soit juriste, qu'il ait une place dans la société, et c'est lui qui souhaitait donner sa vie à Dieu. Et donc finalement, l'ordre de Malte permettait à la fois, c'est un ordre militaire, permettait à la fois d'avoir un certain prestige, ce que souhaitait un peu sa famille, et en même temps de pouvoir servir l'Église, ce qui était son souhait depuis sa jeunesse. Et puis on dit aussi qu'il aimait bien se retirer à l'écart pour prier. Enfin, il avait une vie intérieure qu'il commençait à avoir déjà très jeune.
Mais il a quand même reçu un appel. Ce qu'il distingue là, c'est qu'effectivement il s'apprêtait à ce destin.
Oui, alors il ne savait pas encore bien identifier quelle serait sa vocation, mais il avait déjà en lui le désir de servir Dieu.
Oui, et donc cet appel qui vient de son oncle, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu?
Alors après,
comment ça s'est passé?
Ça, c'était, on parlait effectivement de son expérience personnelle et spirituelle, mais donc quand il a eu 21 ans, son oncle, qui était abbé de Chancelade, alors c'est aussi en Périgord, pas très loin d'ailleurs du château de Belay, c'est au nord de Périgueux, Chancelade, il était à la tête. Son oncle avait été vicaire général dans le diocèse de Périgueux, et puis vous savez, les titres de père abbé dans les abbayes étaient donnés par le roi. C'était des titres avec une rente, etc. Et son oncle avait été un bon prêtre, qui avait été en responsabilité dans le diocèse de Périgueux, et un peu comme un bâton de maréchal, on lui avait donné l'abbaye de Chancelade. Donc, mais il n'avait pas eu l'énergie de réformer quoi que ce soit. Il restait trois vieux moines qui étaient un peu sécularisés, on dirait aujourd'hui, ou en tout cas qui ne vivaient pas la vie conventuelle, qui étaient un peu à l'écart de l'abbaye. Chacun était dans des paroisses aux environs, où aussi ils avaient des rentes, et ils n'étaient pas de mauvais prêtres, mais ils n'avaient pas le feu de Dieu.
Ben dis donc, voilà. Quelle description.
Oui, l'abbaye était en ruine, et saccagée par les guerres de religion.
Oui.
Mais il y avait quand même encore des rentes qui existaient, et c'était un titre honorifique, abbé de Chancelade, et l'oncle voulait qu'il reste dans la famille. Voilà. Donc il a sollicité d'abord, parce que Alain avait des frères plus âgés que lui, et deux de ses frères, il les a sollicités l'un après l'autre, il a constaté que non, ni l'un ni l'autre n'avait la vocation pour devenir prêtre, il ne les y voyait pas du tout. Ce qui montre d'ailleurs qu'il avait sans doute des critères, un certain discernement. Mm-hmm. Hein, et finalement, il a interpellé Alain, et alors là, ça a fait tilt pour les deux, pour l'oncle et pour le jeune Alain qui avait 21 ans, qui se destinait à l'ordre de Malte, un ordre militaire. Et finalement, il sent que finalement ça peut être cohérent aussi avec les ambitions de sa famille, mais c'est peut-être plus cohérent encore avec son désir personnel et ce qu'il ressentait au fond de lui, ce désir de se donner au service de Dieu et de l'Église.
Alors là, je fais une petite incursion sur une lettre pastorale que vous avez publiée récemment, il y a un peu moins d'un an. Vous incitez sur ce caractère de l'appel, à la fois sur le fait d'appeler les jeunes et aussi sur le fait d'écouter l'appel, mais dans l'appel, notamment l'appel à donner des responsabilités, l'appel à aller chercher les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus peut-être?
Bah, tout à fait, on voit à travers cet exemple qu'un vieil homme appelle un jeune homme et lui, cet appel donc un peu objectif, alors lié à un contexte, à une histoire, à des préoccupations qui sont peut-être mélangées. Mais finalement, cet appel retentit comme un appel de Dieu dans le cœur de ce jeune homme. Et ça peut nous dire que dans notre rapport à la question des vocations, le pape François lance un synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Il vient d'y avoir le pré-synode avec des jeunes, il y a déjà des messages qui sont adressés. Cette préoccupation que nous portons dans l'Église, c'est peut-être aussi à nous de prendre quelquefois les devants pour interpeller des jeunes et leur dire « mais pourquoi pas toi ?» Et cet appel extérieur, bien de toute façon, soit il résonne avec l'appel intérieur que le Seigneur adresse à chacun, et alors ça peut être l'instrument de la voix de Dieu, soit ça peut tomber à plat, bien entendu, il faut le faire avec discernement, avec prudence, il ne s'agit pas de manipuler les jeunes, surtout quand ils sont trop jeunes, mais quand on a affaire à des jeunes adultes, ça peut être quand même intéressant de faire retentir cette question.
Il faut peut-être plus oser le faire.
Et je pense, oui, effectivement. Et c'est vrai, comme vous le disiez, le fait de donner des responsabilités à des jeunes, c'est déjà une manière d'appel, de leur faire confiance, de discerner ce qu'ils sont capables de faire, de voir vers où les signes de leurs attitudes quotidiennes les portent. On peut évaluer, tiens, mais ce jeune-là, on le verrait bien dans telle responsabilité, pourquoi ne pas lui demander s'il y a des jeunes qui font de la musique de participer à l'animation liturgique, s'il y a d'autres qui ont des capacités pour animer, qui sont un petit peu leaders, pourquoi pas leur confier un groupe de catéchèse en les accompagnant, en les aidant, ou au moins les faire intervenir sur une journée, sur un temps fort. Je pense que nous appuyons pas suffisamment sur les jeunes, je pense en particulier aux lycéens pour s'occuper des plus jeunes. C'est quelque chose qui, dans notre Église, nous ne comptons pas assez sur les jeunes.
Disons-le fort, merci Monseigneur. Alors, en l'occurrence, l'appel qu'il reçoit à 21 ans, être abbaye, une abbaye, c'est peut-être un petit peu moins fréquent de nos jours. En tout cas, Alain...
Surtout qu'en principe, ce sont plutôt les frères, en général, qui élisent leur
abbaye. Voilà, les choses ont un petit peu changé de ce point de vue-là. En tout cas, lui, il ne se précipite pas dans son abbaye, il commence par aller se former, il va à Paris, il monte à Paris, voilà, et il va recevoir pendant 4 ans une formation sérieuse dans ce Paris qui est bouleversé et qui voit se côtoyer des gens comme Saint François de Sales ou Saint Vincent de Paul que lui va rencontrer alors.
Oui, alors il faut revenir quand même un tout petit peu en arrière parce que c'est pas anodin ce qui se passe avant qu'il aille à Paris parce que il va en fait, d'une part, il va d'abord à Cahors parce qu'il y a une université à Cahors, où il peut faire des études de droit canonique. Et pour pouvoir accepter le titre et être investi du titre d'abbé, il faut avoir un baccalauréat en droit canonique. Et donc il va faire, en fait, en 6 mois, il va faire toutes les études nécessaires, suivre tous les cours pour obtenir son baccalauréat.
C'est pas mal, 6 mois, c'est assez fort.
Assez doué.
Oui.
Et donc c'est d'ailleurs l'évêque de Cahors qui lui donne la cléricature à ce moment-là, parce que l'évêque de Périgueux, le siège est vacant, donc il n'y a plus d'évêque à Périgueux. Il va faire pour ce temps d'abord à Cahors, et ensuite il prend déjà en charge l'abbaye, même sans être encore prêtre,
oui.
Et tout en étant novice.
Oui.
Et il va commencer en fait un début de réforme, dans le sens qu'il rétablit il demande aux frères qui existent, et il y a un jeune frère, j'en ai cité trois qui étaient âgés et un peu dispersés, mais il y a quand même un qui est là, le père Lamic, qui est un jeune prêtre, et surtout avec lui, mais aussi il essaye d'entraîner les autres pour reprendre un peu une vie communautaire, manger ensemble, prier ensemble. Alors il a un petit peu de mal. Souvent, le matin, il est tout seul à faire l'oraison, mais dès le début, il fait tous les matins 1 heure d'oraison en silence. Il commence à chanter les offices, au moins à les réciter parce qu'il ne sait pas encore trop bien chanter. Il commence la réforme de l'abbaye par la prière et aussi par la vie fraternelle dès le début. Et ensuite, effectivement, il est ordonné prêtre à Périgueux, donc à ce moment-là, il y a un évêque.
Oui.
Et il part après son ordination à Paris faire plusieurs années d'études pour obtenir ses grades universitaires en théologie.
Bien, nous allons continuer le récit de la vie d'Alain de Sommignac la semaine prochaine. Merci Monseigneur Camien de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques.